Bonjour tout le monde. Alors, bonne année à tout le monde. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Ce matin, on va parler de choses très, très importantes à la famille. Pourquoi nous prenons la table du Seigneur une fois par mois dans certaines assemblées? Ils le prennent toutes les semaines, dans d'autres, aux trois mois. Qu'est-ce que c'est que la table du Seigneur? Qu'est-ce que c'est que la Sainte Cène, la Cène, la table de communion? Différents noms qu'on donne à la table du Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-ce que Jésus a institué deux ordonnances, l'ordonnance du baptême et l'ordonnance de la table du Seigneur pour ses disciples et dans cet ordre-là? C'est ce qu'on va prendre le temps de regarder ce matin. Ce que c'est et ce que ce n'est pas aussi. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci, Seigneur, pour les ordonnances que tu nous as données, Seigneur, afin de nous aider dans le temps, Seigneur, à nous rappeler, à ne pas oublier, à témoigner. Merci, Seigneur, de ce que tu nous l'enseignes dans ta parole et on peut le voir clairement. Père Céleste, prédispose nos cœurs maintenant à t'écouter, Seigneur, lorsque tu nous parles. Que ton nom soit glorifié, que tu sois élevé en ce premier dimanche matin de 2016. Et que ça soit une prédisposition pour le reste de l'année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tournez avec moi dans Luc, chapitre 22. Luc, évangile de Luc, chapitre 22. Et nous lirons ensemble des versets 14 à 20. Luc 22, j'entends des feuilles qui bougent. C'est bon. Les téléphones, quand on appuie sur les boutons et qu'ils bougent, on n'entend rien. Mais les feuilles dans les Bibles, ça bouge, c'est intéressant. Je sais qu'on va de plus en plus vers la technologie. De plus en plus de prédicateurs prêchent avec leurs pattes dans les mains, etc. Moi, j'aime bien encore avoir ma Bible dans les mains, je trouve ça... C'est vrai que vous allez dire, il est vieux, lui, c'est correct. C'est vrai. J'ai dû aller voir mon fils ce matin pour lui demander qu'est-ce que je fais avec mon téléphone. Il ne marche plus. Fait que lui, il l'a juste tenu, puis il est reparti tout seul. C'est une question d'âge garantie, certain là-dedans. Luc, chapitre 22, et je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donnant, disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus parle à ses apôtres juste avant de mourir. Intéressant de voir que beaucoup d'interprétations par rapport au début du verset 14, « L'heure étant venue », beaucoup disent « C'est l'heure étant venue que Jésus s'en aille vers la croix. » Le problème, c'est que c'est pas pantoute ça. Le problème, c'est que l'heure étant venue fait référence à Pâques. Les Juifs célèbrent Pâques depuis des millénaires déjà. Ben, des millénaires, c'est peut-être fort un peu, mais au moins des centaines d'années. Mais beaucoup, beaucoup d'années depuis le moment où Israël a été délivré de l'esclavage de l'Égypte. Et ça, on voit ça dans Exode chapitre 12. Alors, tournez avec moi dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On en a lu un petit peu ce matin lorsque nous lisions dans le... Pendant que vous tournez à Exode 12, quand on lisait dans le psaume 105 ce matin et qu'il parlait à partir... N'allez pas dans le psaume 105, je suis là. J'ai des petits... Vous savez les choses merveilleuses qu'on appelle des post-it, là, hein? J'en ai mis un pour psaume 105. C'est très, très, très pratique, ça. C'est mieux que les onglets, je vous le garantis, moi. Mais à partir, dans le psaume 105, quand il faisait référence à toute l'historique d'Israël, il parla des de l'eau changée en sang qui faisait périr les poissons, le pays qui fourmille de grenouilles, les mouches venimeuses, etc., etc. Ils ont frappé les vignes et les figuiers, brisé les arbres de leur contrée. On parle de ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Et là, un peu plus loin, arrivent les sauterelles. Un peu plus loin, on arrive, il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Et tout de suite après, au verset 37, il fit sortir son peuple avec l'argent et de l'or, et il fit sortir le peuple d'Égypte. C'est à ce moment-là, lors de la 10e plaie d'Égypte, que la Pâque est instituée. Et on va lire un petit peu à partir des versets 1 du chapitre 12 d'Exode. Exode, chapitre 12, verset 1. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pâques. En anglais, on dit pass over. Passer par-dessus. La Pâque juive. Intéressant de voir la 10e plaie. En hébreu, ça veut dire passage. Il y a un sens de là. L'Éternel ou l'ange de destruction passe et punit ceux qui n'ont pas le sang sur les linteaux, les côtés de la porte et le linteau de la porte. Intéressant que ça prenait pour Israël de la foi. Celui de la maison d'Israël qui disait, écoute bien là, pas charrier là, pas pousser, pousse mais pousse égal là, et qui n'en a pas mis le premier-né de cette maison-là, que ce soit dans la maison ou dans les tables, est mort. Celui aussi des Égyptiens ou des étrangers qui, lui, craignait l'Éternel et a mis du sang sur ses linteaux, l'ange de destruction a passé par-dessus. Tout à l'heure, je parlais avec Jacques, on parlait de la grâce. Nous sommes sous la grâce. Notre frère Pierre a prié tout à l'heure que c'est encore un an de la patience de Dieu, la grâce de Dieu. Mais la grâce s'étend depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde. Et lorsque je regarde toute ma vie personnelle, je vois la grâce, la miséricorde et la patience de Dieu dans ma vie. Et je suis certain que chacun de nous, on pense la même chose. Il n'y a pas plus secret qu'un individu. Ma femme disait il y a quelque temps que je suis un homme secret. Nous sommes tous des individus secrets. Nous faisons valoir à tout le monde nos bons coups, car nous sommes tous des gens très modestes, mais nos mauvais coups, on n'en fait pas de la publicité. même pas avec la personne la plus proche de nous. La grâce. Israël en Égypte, Israël esclave, et suite à ce miracle où l'ange de destruction est passé sur l'Égypte, Pharaon a laissé partir Israël et il fête la Pâque depuis ce moment-là. Et quand on regarde, et là je retourne dans Luc 22, quand il est question de l'heure étant venue, c'est l'heure de fêter la Pâque. C'est-à-dire, à partir du coucher du soleil, Israël, les Juifs, fêtaient la Pâque. Et Jésus est là avec ses disciples pour fêter la Pâque. Et si vous lisez les passages précédemment, les quelques versets, sept versets précédents, vous voyez Jésus qui envoie ses disciples pour préparer la Pâque. Intéressant de voir, Jésus choisit ce moment-là précis pour célébrer la Pâque avec eux. Et on va voir pourquoi en développant le passage. Verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il a vivement désiré de passer par ce moment-là. Christ n'est pas venu mourir sur la croix parce que ça lui tentait. Il n'est pas venu mourir sur la croix parce qu'il s'en allait à un Club Med. Il n'est pas venu mourir sur la croix parce que c'était toute une belle expérience. Ça, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, une expérience. On n'a pas des enfants aujourd'hui pour avoir la joie d'avoir des enfants, mais pour vivre une expérience. Toutes sortes de choses comme ça pour vivre une expérience. Jésus n'était pas là pour vivre une expérience, mais il a vivement désiré être là et manger cette Pâque avant de souffrir. Il explique à ses disciples qu'est-ce qui se passe. Il explique à ses apôtres qu'est-ce qui se passe et il nous l'explique à nous dans ce passage-là. Ce n'est pas juste aux disciples qu'il parle par l'entremise de Luc dans ce passage-là, mais c'est à chacun de nous aussi et il nous l'explique avant de souffrir. Qu'est-ce que c'est qu'il nous l'explique? Ben, c'est très simple. Il nous transmet un mémorial avant de souffrir. Un mémorial, c'est afin qu'on se rappelle, qu'on se souvienne. Car si vous êtes comme moi, nous sommes des êtres oublieux. Hein? Messieurs, lorsqu'on se marie, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la date d'anniversaire de notre épouse et la date qu'on s'est marié. Si vous êtes oublieux, vous l'écrivez dans votre agenda. La première page de mon agenda se transfère année après année. Ce sont toutes les dates d'anniversaire de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants, etc. Les dates importantes. Pourquoi? Parce que je suis oublieux. Je m'imagine les familles quand ils avaient 20 enfants. Imaginez-vous 20 enfants, 20 gendres et belles-filles, puis si on met juste 4 enfants chaque, ça fait 80 petits-enfants. C'est juste pour vous rappeler. L'importance d'un mémorial. Nous oublions pourquoi Jésus est mort. Nous oublions ce qu'il a souffert par amour pour toi et par amour pour moi. C'est pour ça qu'on a un mémorial, qu'on a besoin de s'en souvenir. Transmettre ce mémorial avant de souffrir. Un peu plus loin, on continue. Alors, car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Et ayant pris une coupe, verset 17, et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. J'aurais pu prendre du temps sur le mot « jusqu'à ce qu'elle soit accomplie ». Mais quand j'ai lu, pour moi, l'accomplissement, je pensais que c'était l'accomplissement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que je comprenais dans le passage. Mais quand j'ai lu les commentaires et j'ai vu tout ce qu'ils disent là-dedans sur ce qui s'est accompli, tout dépendant comment tu vois le retour de Jésus-Christ d'une position pré-mille, à mille ou entre les deux, n'importe quel mille, waouh, j'ai dit, j'embarquerai pas là-dedans, c'est pas vraiment le sujet de ce matin. Mais un peu plus loin, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusque le royaume de Dieu soit venu. Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Hein? Jésus est venu volontairement et Jésus est venu pour établir son royaume et vaincre Satan à la croix. Comment a-t-il vaincu Satan à la croix? Un gros sujet, ça. Quand il est mort, c'était loin d'avoir l'air d'être un vainqueur. Il est mort comme les deux brigands, chacun de son côté, hein, un à gauche, un à droite. Il n'avait pas l'air d'être une victoire flamboyante. La seule différence entre les deux brigands, c'est que les deux brigands sont restés dans leur tombe et Jésus est ressuscité le troisième jour. Et il a vaincu Satan. Vaincu Satan par le fait comme quoi que le salaire du péché, c'est la mort. Depuis Adam et Ève, tous les êtres humains meurent. C'était une des conséquences de la condamnation d'Adam et Ève. S'ils désobéissaient, vous mourrez. Mais pire que ça, à cause du péché, Dieu ne peut pas voir le péché. Et Christ à la croix, en mourant à ta place, à ma place, subissant la condamnation du péché, un juste mourant pour des injustes et ressuscitant le troisième jour, le sacrifice est parfait. Il a payé. On va développer un petit peu plus loin ça. Un peu plus loin, il dit, « Ensuite, il prit du pain, verset 19, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Mon corps et mon sang. Même si Jésus dit, « Ceci est mon corps et mon sang, le pain reste du pain. » Et le vin reste du vin. Ce n'est pas ce qu'on appelle la transsubstantiation. OK? Très bon mot si vous aviez assez de lettres pour jouer au Scrabble. Beaucoup de lettres. La transsubstantiation, qu'est-ce que c'est? La transsubstantiation, c'est changement de la substance. Le pain devient le corps, le vin devient le sang. C'est ça qu'on appelle la transsubstantiation. Ou encore, appelé aussi l'Eucharistie. Même chose. C'est pas du tout ça que Jésus enseigne là. Parce que si on prend ses paroles littérales comme il enseigne là, le problème, c'est que Jésus, au moment où il prend le pain et qu'il dit « Ceci est mon corps », au moment où il prend le vin et dit « Ceci est mon sang », Jésus n'est pas mort encore. Il est droit devant eux autres. Si on le prend littéral, il faudrait le prendre littéral quand il dit « Je suis une porte », quand il dit « Je suis la porte ». Il faudrait le prendre littéral lorsqu'il dit « Je suis un chemin, je suis l'étoile du matin, une pierre angulaire, une fontaine, un roc, etc. » Pourtant, il n'est pas une porte, mais il est la porte. Il n'est pas un chemin sur lequel on va marcher, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas une pierre angulaire qu'on se servait pour construire les bâtiments, OK? Mais pourtant, il est la pierre angulaire, la pierre la plus importante de tout l'édifice. Son corps d'Église. Et il est un roc solide. Pourtant, on ne prend pas un pic pour jouer avec le roc Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas prendre littéral ce que Jésus est en train de dire là, comme quoi que ceci est mon corps. Il n'est pas en train de se couper un bout de doigt pour l'ordonner. Là. Il est encore là, bien vivant. C'est une image. Et il dit aussi, c'est un mémorial. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'approcher de la table, et on va développer ça un peu plus loin dans 1 Corinthiens, avec un manque de respect. Ouais, mais c'est règne du pain, c'est règne du jus de raisin, c'est règne de la vigne. Attention, il n'y a rien là. Ça ne reste que du pain et ça ne reste que du jus de raisin ou du vin. Mais dans l'esprit de la chose, il y a beaucoup d'importance et on va voir que les Corinthiens avaient des difficultés avec ça. Ce sont des images. La même chose que les paraboles. S'il fallait qu'on prenne les paraboles littérales, quelquefois on aurait des difficultés. Ce sont des images, des histoires qui permettent de comprendre et qui nous permettent de prendre la table pour prendre un temps pour se rappeler. La nouvelle alliance en mon sang. Ça, c'est le verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Une nouvelle alliance fait référence à une alliance précédente. Un nouveau testament fait référence à un ancien testament. C'est exactement la même chose. Un nouveau testament, nouvelle alliance, ancienne alliance. Intéressant de voir que c'est Jésus-Christ lui-même qui accomplit l'ancienne alliance et qui devient une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance remplace la vieille, signée par son sang. C'est tout ça qu'on fête, qu'on se rappelle quand on est au ras de la table du Seigneur. Dans Matthieu 26, verset 28, il dit « Mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. » Romains 5, 9, « Nous sommes justifiés par son sang, sauvés de la colère. » 1 Jean 1, 7, « Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Apocalypse 1, 5, « Nous sommes délivrés par son sang. » Et Hébreux 9, 22 nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et c'était valable aussi dans l'ancienne alliance. Il fallait que le peuple d'Israël vienne au tabernacle, que sacrificateur mette à mort un taureau, un bœuf, un animal sans défaut, mâle, comme la description de l'agneau, et verse son sang, fallait que le sang coule pour le pardon des péchés d'Israël. C'était une image à venir de l'agneau sans tache. C'est pour ça que dans nos cantiques, des fois, on chante Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est l'agneau sans tache, sans défaut, sans péché, qui a payé une fois pour toutes. L'importance du sacrifice de Jésus à la croix, l'importance de son sang qui coule. Pourquoi c'est l'important du sang? Parce que le sang représente la vie, OK? Quand on met à mort un animal, OK, qu'on l'égorge, il perd son sang et il perd la vie. Le sang représente la vie. Donc, Hébreux 9, 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Mais, dans Romains 6, 23, il nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a un mais. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, le salaire du péché, oui, c'est la mort. La condamnation du péché, c'est la mort et l'enfer. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme Romains chapitre 8, verset 1 nous dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, 3 janvier 2016, tu peux dire, il n'y a aucune condamnation pour moi? Si tu ne peux pas dire, il n'y a aucune condamnation pour moi, tu dois dire qu'il y a une condamnation pour moi. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou je ne suis pas condamné, j'ai été racheté, je suis sauvé, ou je suis condamné à cause de mon péché. Savez-vous, on n'a aucun mérite, aucun mérite. Nous sommes tous des pécheurs, condamnés pour l'éternité à cause de notre péché. Mais grâce à l'amour que Dieu a pour nous, grâce à l'amour que Dieu a pour chacun des êtres humains, il a envoyé son Fils comme victime, et je vais sortir un gros mot là, expiatoire. Jésus a été envoyé pour expier, prendre ma place à la croix pour mon péché, pour ton péché. C'est ça qu'on se rappelle quand on se rapproche de la table chaque mois. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu n'as pas obtenu le pardon de tes péchés, ce matin, c'est le bon moment. On ne sait jamais si on se réveillera demain matin. Allez demander à ma femme, elle va vous le dire. Quand j'ai été malade il y a 2 ans, une méningite, je me suis couché le soir et j'ai dit à ma femme, chérie, je pars à 6h30 demain matin. Je me suis réveillé le dimanche après-midi à l'hôpital. J'aurais pu très bien ne pas me réveiller. On ne sait pas, ce n'est pas nous qui déterminons le moment de la fin de notre vie. Dans le psaume 139, Dieu a dit qu'il a, avant même qu'on soit conçu, il avait déjà déterminé les jours qui nous sont destinés. Si nous sommes tous ici ce matin, c'est parce qu'aucun de nous est arrivé à la fin des jours qui lui sont destinés. Mais on ne sait pas si c'est la fin de ces jours-là, c'est dans une heure ou dans 10 ans. On ne le sait pas. Dieu le sait. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, c'est le passage qu'on lit et que chacun de ceux qui présentent la table du Seigneur, généralement, lisent. Et c'est Paul qui parle. Avant qu'on commence au verset 23, il faut quand même qu'on regarde les versets précédents de manière à bien comprendre. Des versets 1 à 16, il parle du rôle de l'homme et du rôle de la femme dans l'Église. Vous le lirez. Des versets 17 à 22, il parle des problèmes qu'il y a dans l'Église de Corinthe. Il parle des riches et des pauvres, des abus des riches en nourriture, en boissons alcoolisées, enivrées, en regardant les pauvres qui sont en train de crever de faim à côté d'eux, un manque de considération, et ça se fait dans l'Église, un manque de partage. Et il accuse les chrétiens comme ça, il leur dit, « Vous méprisez l'Église de Dieu. » C'est le problème qu'il y a à Corinthe. Il ne s'assemble pas pour prendre la table du Seigneur et avoir tout en partage, mais il s'assemble pour faire des parties, puis s'enivrer, manger au lieu de respecter la table. Et c'est là que commence le verset 23. Je vais lire le verset 22. « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » C'est Paul qui parle. Car j'ai reçu, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. On va s'arrêter là. La table du Seigneur, on doit s'approcher de la table avec des choses réglées dans nos vies. Y a-t-il des péchés? C'est pour ça qu'on doit s'examiner soi-même, s'éprouver soi-même. Est-ce que j'ai des péchés en ce moment non confessés? À Dieu, on parle. Hein? Je ne veux pas vous venir voir après du dominé, je vais aller au confessionnal. Pas penser à ce que je veux dire. Des péchés que je n'ai pas confessés à Dieu. Des problèmes, des difficultés, des conflits non résolus avec un frère ou une sœur dans l'assemblée. Ai-je à demander pardon à un frère ou une sœur? Ai-je un conflit avec tel frère ou telle sœur? La parole de Dieu nous dit, laisse-le ton offrande, va voir ton frère, réconcilie-toi avec lui ou avec elle. Est-ce que je suis en conflit avec mon épouse? Est-ce que je suis en conflit avec mon époux, avec mes enfants, entre frères et sœurs? Laisse-le ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Ça, c'est l'examen que nous devrions faire chaque mois lorsque nous venons au culte et que nous savons que nous allons prendre la table du Seigneur. C'est bon chaque mois. Je comprends aussi les églises, les assemblées qui le font chaque semaine. Au moins, on n'a pas tout un mois avant de dire, bon, « OK, Seigneur, je vais aller régler mes problèmes. » Vous comprenez ce que je veux dire? On prend le temps de régler. Le plus gros, le meilleur secret qu'on a eu dans notre vie de couple, ma femme et moi, ça fait 43 ans qu'on est mariés, c'est que ma femme, elle a pris littéralement le passage dans Éphésiens qui dit « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Et misère que j'aurais aimé ça, que ce passage-là soit pas là, moi. Ça m'obligeait à régler les différends qu'on avait chaque jour. Le Seigneur veut qu'on règle nos différends, nos péchés avec lui. Il nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner, tous les péchés. Approchons-nous de lui, confessons-lui nos péchés. Réglons avec autrui. Il nous dit aussi, quand il enseigne dans la prière, vous savez, il nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wow! Non, j'y pardonnerai pas. Mais le Seigneur, il va nous tirer les oreilles quand on va le rencontrer. Il dit, je t'ai tout pardonné, moi. Pardonnons-nous les uns les autres. La table du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même. J'ai retenu les versets 30 à 34, car c'est des versets durs, les versets 30 à 34. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts, à cause que les Corinthiens méprisent la table du Seigneur et viennent leur dire, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Intéressant de voir qu'il y a de l'importance, on ne méprise pas le Seigneur. Alors là, allez pas dire à tout le monde que Pasteur Dominique a dit comme quoi que si je prends pas la table du Seigneur comme il faut, là, si je suis pas sage, etc., etc., je vais mourir, je vais être infirme, je vais être malade ou je vais mourir. C'est pas ça qu'il dit, là. L'enseignement, c'est s'éprouver soi-même. Nous, en réalité, venir à la table du Seigneur, c'est une célébration. Ça ne devrait pas être comme c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On devrait être là avec un cœur joyeux, heureux, comblé, parce que Christ nous a tout pardonné. Est-ce qu'on réalise tout ce que ça veut dire? Que sur la croix, sa mort et sa résurrection, nous ne sommes pas condamnés, pardonnés. Nous avons une espérance éternelle. Quoi qu'il arrive dans notre vie, entre guillemets, c'est pas grave. France a dit l'autre jour, elle a dit ça à son infirmière, le meilleur est à venir. Le temps sur terre est très court. L'éternité, c'est très long. Puis quand vous avez fini de dire très long, ben on recommence. C'est très long, puis c'est très long, puis c'est très long. C'est éternel. Éternel avec Dieu, en présence de Dieu. Ça va être un party pour l'éternité. Éternel avec Satan, ça va être des tourments pour l'éternité. La conséquence du péché. Donc, ce matin, nous approchons de la table du Seigneur et je vais inviter les frères qui vont distribuer les éléments ce matin. Quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi, c'est afin qu'on s'en rappelle », il le dit aussi afin qu'on annonce, qu'on proclame la mort du Seigneur. Donc, ce matin, on s'est éprouvé, on s'est examiné, c'est sérieux, on se rappelle tout ce que Christ a fait, la mort. Donc, on prend la table. Qui prend la table? Intéressant de voir que Jésus parle à ses disciples. Et on voit que dans le début de l'Église, les disciples sont invités à se faire baptiser et à prendre la table. Donc, la table, c'est pour les disciples, ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur sauveur et qui se sont fait baptiser. Nous, les disciples, prenons la table ensemble. Au nom de Jésus.